Salut tout le monde, bienvenue dans La Courte Échelle, émission anticarcérale tous les dimanches de 19h30 à 20h sur Radio Galère. Donc c'est une émission qui parle d'enfermement, qui parle de prison, de centre de rétention, d'hôpitaux psy, et de répression. Et donc la prison c'est une étape de la répression, mais en fait on parle aussi de la justice pénale notamment, qui enferme. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec un invité qui va nous appeler en direct, qui est un camarade de l'Envolée. Je le laisserai se présenter. Avant, je vous rappelle quand même l'adresse où nous contacter, ou contacter l'émission. Donc, il y a l'adresse postale pour ceux et celles qui voudraient nous écrire. Donc, c'est La Courte Échelle, Radio Galère, Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 13003, Marseille. Et il y a aussi l'adresse mail pour les personnes qui voudraient nous rejoindre ou nous contacter. Donc c'est la-courte-échelle@riseup.net. Et voilà, vous êtes les bienvenus, écrivez-nous, ça nous fait plaisir. Donc ce soir, je suis seule en studio, mais voilà, heureusement, il y a le camarade qui appelle, je vais lui donner la parole. Salut, tu nous entends ?
Allô, salut ? Ça va ? Est-ce qu'on m'entend bien ?
Ouais, c'est tout bon, j'ai un petit problème de casque, mais c'est réglé.
Eh ben, bonsoir tout le monde, moi c'est Joël, je fais partie de l'Envolée, un collectif contre les prisons. On fait une émission de radio chaque semaine, donc un peu comme La Courte Échelle. Mais on fait ça un peu sur toute la France, dans la mesure du possible. Et on fait aussi un journal qui est gratuit pour tous les prisonniers et toutes les prisonnières. Donc si ça vous intéresse, eh ben, on peut vous abonner. S'il y a des prisonniers ou prisonnières qui nous écoutent, on peut vous abonner. Il suffit de nous donner votre nom, prénom et numéro d'écrou et la tôle, bien sûr. Donc soit vous nous écrivez à 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris, l'envolée-fpp, soit vous demandez à La Courte Échelle. Hein, La Courte Échelle, tu l'as dit l'adresse, La Courte Échelle, ouais. Radio Galère, Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 13003 Marseille. Et les copains et copines de La Courte Échelle retransmettront la demande. Voilà pour grosso modo la présentation, mais on fait à peu près la même chose que La Courte Échelle, hein, dans les faits. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler d'un procès, parce que j'ai assisté à un procès avec des copains et des copines, et on voulait revenir un peu sur ce procès, notamment parce qu'il concerne un peu le Sud-Est. Je sais pas.
Oui, c'est vrai que le
du procès.
Oui, carrément, parce que en fait, je l'ai pas du tout fait. Désolée, c'est vrai que je t'ai donné la parole sans dire de quoi on avait parlé. Donc en effet, ouais, un procès vas-y, je te laisse le présenter.
Bah, déjà, on peut dire que c'est un procès où il y a deux choses qui nous font plaisir dedans quand même. La première, c'est que ça parle d'évasion. C'est un procès pour évasion, donc on n'est pas content qu'il y ait un procès, mais on est content qu'il y ait des évasions. Et la deuxième chose qui nous fait plaisir, c'est que c'était un procès en appel où les peines ont baissé. Elles étaient extrêmement élevées en première instance. Et donc on va parler de l'appel. Puisque la première instance, donc, elle a eu lieu en janvier 2023, l'année dernière. Et on en avait déjà parlé en fait à La Courte Échelle à ce moment-là. Donc les peines en première instance, c'était 25 ans, 22 ans et 18 ans, mais je vais revenir un peu sur tout ça.
Ouais,
et donc là, en appel...
Ouais, là, c'était en janvier aussi, on l'a pas dit.
C'était en janvier aussi, mais donc un an après, c'était en janvier dernier, il y a deux mois, mois et demi.
Et c'était à Draguignan, du coup.
C'était à Draguignan. Le premier instant, c'était à Aix-en-Provence, mais là, c'était à Draguignan, l'appel. Et du coup, c'est quoi les faits qui sont reprochés aux trois accusés, parce qu'il y a trois accusés, donc. C'est que en janvier 2019, donc le 28 janvier 2019, il y a un prisonnier qui est dans un fourgon pénitentiaire en extraction judiciaire qui va s'évader du fourgon dans lequel il est enfermé. Il va s'évader au niveau du tribunal de Tarascon. Il était extrait pour une audience auprès de la juge d'instruction pour l'affaire pour laquelle il est jugé. Et donc, il arrive à s'évader du fourgon au niveau du tribunal. En gros, comment ça se passe, c'est qu'il y a deux potes à lui qui viennent l'évader. Donc, ils sont armés. Il y en a un qui a un fusil d'assaut et un qui a un pistolet, une arme de poing. Et donc, il se place au niveau du chef d'escorte. Le chef d'escorte, c'est il y a trois matons dans le véhicule. Le chef d'escorte, c'est celui qui est censé un peu superviser l'extraction. Et donc, c'est lui qui est côté passager à l'avant et qui sort pour aller sonner à l'entrée du tribunal et dire « Coucou, c'est nous, ouvrez-nous » pour se garer à l'intérieur. Donc, c'est au moment où il sort du véhicule pour aller sonner à l'entrée que il y a les deux camarades, les deux collègues du prisonnier qui arrivent et qui mettent en joue le menace, quoi. Ils lui disent « Mets-toi au sol, il se met au sol. » Et du coup, il y a celui qui a le fusil d'assaut qui ouvre la portière arrière droite. C'est un Kangoo, le véhicule. Donc c'est, vous voyez, là, les petits utilitaires. Il ouvre la porte arrière droite et il demande, en braquant la matonne, de libérer son collègue. Voilà. Donc ça, c'était le plan d'évasion qui, pour l'instant, se déroulait comme il était prévu. Et a priori, normalement, avec ça, tu t'évades la personne. Sauf que on ne sait pas trop pourquoi, mais les deux matons qui restent à l'intérieur du véhicule décident de faire le super-héros et décident de accélérer. Enfin, genre celui qui est conducteur accélère à la demande notamment de la matonne qui est encore à l'arrière. Et donc ils foncent tête baissée, véhicule avec les portes ouvertes, en laissant donc le chef d'escorte tout seul devant l'entrée du tribunal au sol. Du coup, ce qui se passe, c'est que celui qui a le fusil d'assaut va ouvrir le feu, il va tirer en direction des pneus une dizaine de balles, et un peu moins d'une dizaine, et celui qui a l'arme de poing va tirer une balle, au niveau de la roue arrière droite, enfin bref, au niveau des pneus, quoi. Ce qui fait que le véhicule va s'arrêter, puisque les pneus sont crevés. Et donc le prisonnier va s'évader en sautant de lui-même. Le véhicule continue à rouler un petit peu, mais rouler beaucoup plus lentement du fait des pneus crevés. Il se jette en jetant son poids, ce qui fait que la matonne est obligée de lâcher. Et voilà, il se barre en courant avec les menottes aux mains et ses deux collègues. Et il se barre en voiture et voilà. Et ils partent en cavale. Ils vont être retrouvés en juillet, donc 6 mois après, ce qui est relativement beaucoup hein, par rapport à la plupart des évasions, notamment les évasions où c'est la BRB qui se charge de l'enquête, etc. Être parti 6 mois, c'est vraiment un pied de nez à l'État pour des conditions telles d'évasion. Quoi.
Ouais, on a vu que ça n'a pas du tout plu au juge, parce que là, on appelle... J'ai l'impression qu'ils servent aussi de l'audience pour désinciter les gens à s'évader avec des phrases du genre « mais de toute façon, les évasions, ça marche jamais. Regardez, les cavales, ça dure pas. Il faut toujours revenir un moment et la police oublie jamais. » Donc on voit qu'il y a quand même cet enjeu aussi sur ce genre de procès à vraiment désinciter les gens à essayer de s'évader et à dire que c'est l'État le plus fort et qu'ils n'y arriveront pas
complètement
à long terme. Quoi.
Alors après, ce truc-là était encore plus palpable dans la première instance. Ouais. Toi, tu n'étais pas là à première, mais en deuxième instance, effectivement, il y avait ce truc-là. Mais en première instance, c'était vraiment l'objectif central du procès, quoi. C'était faire le procès des évasions et donc envoyer des grosses claques en termes de peine, etc.
Et du coup, c'était médiatique, la première instance, c'est ça ?
C'était pas si médiatique que ça. En fait, ce qui s'est passé en première instance... c'est un petit peu médiatique dans le sens les médias locaux du sud-est, disons, en ont parlé, donc les médias autour de Tarascon, Nîmes et tout ça. Mais en fait, c'est là où ça fait beaucoup de remous, c'est surtout en interne, dans l'administration pénitentiaire, parce que en fait, Nicole Belloubet, qui est l'actuelle ministre de l'Éducation, à l'époque était ministre des tribunaux et des prisons. Mmh. Et en fait, elle était montée au créneau, elle était venue sur place le jour même de l'évasion pour consoler les matons, etc. Et en interne, c'était devenu vraiment un gros truc, notamment auprès des syndicats de matons, Donc FO pénitentiaire, l'UFAP, INSA, etc. Et en fait, les matons, les syndicats de matons ont réclamé un peu des peines exemplaires et tout ça. Donc c'est une expression qui est ressortie pendant la première instance. Désolé, hein, je reparle de la première instance un peu, mais oui, la PROC avait exprimé une demande de peine exemplaire. Elle avait vraiment dit cette expression-là. Et FO pénitentiaire avait publié un tract à l'époque du premier procès. Pour se féliciter du verdict, comme quoi ça a envoyé un message aux autres prisonniers. En fait, c'était ça l'objectif, envoyer un message aux autres prisonniers pour les dissuader d'avoir envie de s'évader, quoi. Grosso modo, c'était ça le message de la première instance. Donc ça, c'était le premier problème un peu central de cette histoire. C'est le rôle, en fait, en interne. Une évasion, c'est ce qui fait tâche aux yeux de l'administration pénitentiaire. Il refuse absolument que ça ait lieu. Et le deuxième truc, c'est que le chauffeur avec le chauffeur qui redémarre et qui laisse le chef d'escorte tout seul, en fait, c'est les matons qui ont eux-mêmes créé la situation dangereuse. Parce qu'en fait, s'ils avaient laissé partir le prisonnier au moment où ils étaient braqués, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes de tir à balles réelles, etc. Mmh. C'est toujours pareil. En fait, plus tu augmente le degré de risque de la part des matons, notamment si tu les surarmes, etc., plus en fait les gens, pour évader leurs potes, vont devoir faire peur encore plus. Et du coup, ben, il faut sortir des armes encore plus grandes, etc.
D'ailleurs, les accusés n'ont pas arrêté de le dire là aussi en appel, qu'ils avaient jamais, ils voulaient faire usage de leurs armes, en fait. C'est parce que, normalement, d'habitude, ils sont censés libérer tout de suite la personne quand il y a menace, et que là, ils ne l'ont pas fait. Les matons.
Ça, complètement, c'était un axe central de leur défense en appel, surtout, où ils ont vraiment démontré et expliqué qu'ils n'avaient aucune intention de tuer et que les armes n'étaient là que pour intimider, qu'il n'y avait pas la volonté d'en faire usage et que quand bien même ils en faisaient usage, c'était bien pour l'évasion. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils tirent en direction des pneus, etc. Bref, qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais exprimer deux, trois trucs sur la différence entre la première et la deuxième instance aussi. C'est que, donc en première instance, le verdict a été extrêmement élevé, hein, 25, 22 et 18 ans. Et donc, les trois personnes ont fait appel, notamment parce que personne n'a jamais eu des peines aussi élevées pour une évasion en France. C'est jamais arrivé. 25 ans pour une évasion, c'est jamais arrivé. Il faut répéter, on l'avait déjà dit pour la première instance, mais une évasion, c'est un délit, c'est pas un crime. C'est-à-dire que c'est punissable de 10 ans d'emprisonnement maximum, l'évasion avec usage d'armes. Et donc le fait qu'ils se retrouvent aux assises, c'est déjà qu'ils ont perdu d'avance en première instance. Et donc en appel, ils sont à nouveau aux assises, et c'est un problème en soi, parce que en fait, ça veut dire qu'on va leur incriminer un truc de tentative d'assassinat sur personne dépositaire d'autorité publique, donc en l'occurrence des matons, alors que il s'agit d'une évasion avec armes. C'est tout l'enjeu de leur défense, c'est de ne pas nier, en tout cas pour deux des accusés, parce qu'on reviendra sur le troisième accusé qui clame son innocence, mais les deux accusés, donc le prisonnier et celui qui a le fusil d'assaut, disent qu'ils étaient effectivement présents sur les lieux et que c'était effectivement une évasion avec usage d'armes, et ils le nient pas. Et donc, c'est punissable de 10 ans maximum. On est bien d'accord sur le maximum, c'est-à-dire que déjà, prendre 10 ans pour ça, c'est beaucoup. Mm. Et c'est beaucoup au regard de la loi. C'est-à-dire qu'après, on en pense qu'on en veut d'une évasion, mais voilà. Bref. Donc ça, c'était un premier truc qui était extrêmement important dans l'appel, c'est qu'en fait, on se retrouve à devoir essayer de minimiser un truc qui est déjà complètement considérable de 25, 22 et 18 ans. C'est du grand n'importe quoi. Une autre différence entre la première et la deuxième instance, c'est que le conducteur qui parle en roulant à tête baissée, il dit qu'il a réussi à éviter une balle en se baissant. Ça, c'était sa version en première instance. Donc, c'était Matrix et tout ça. Il a entendu le son de la balle et du coup, il s'est baissé. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à accélérer en baissant la tête et en fonçant tête baissée, vraiment, littéralement. En deuxième instance, sa version, elle change. Il dit que foncer tête baissée, c'est le protocole. Il a suivi le protocole lors d'une évasion. C'est assez important, on va revenir là-dessus un petit peu après. C'est que, en fait, la version de la défense des parties civiles, enfin, comment dire, comment les parties civiles essayent d'incriminer les accusés n'est pas la même en deuxième instance donc en appel, parce qu'il y a, des grosses tensions en fait qui apparaissent entre la paix et les matons. Bon, j'en parlerai après.
Ah, t'en parles après, ok.
Ouais, désolé, sinon je vais me perdre un peu. Je voulais revenir juste sur la différence. Une autre différence, c'est l'ambiance au premier et au deuxième procès. Au premier procès, il y avait les syndicats de matons qui étaient présents. Il y avait plein de gendarmes en civil, il y avait des keufs en civil, etc. Et il y avait aussi un peu des proches et des personnes dans la salle, quoi, des personnes qui assistaient. Parce que c'était à Aix-en-Provence, un endroit accessible depuis Nîmes d'où viennent les accusés. C'est pas loin de Marseille, enfin voilà, c'est un endroit accessible. Et du coup, il y avait du monde qui voyait le procès. Et il y avait beaucoup de syndicats de matons. En deuxième instance, c'était complètement différent. C'est à Draguignan, on est dans le Var. Le Var, c'était un choix de la part de la PROC. C'est la PROC, hein, qui a demandé à délocaliser le procès. Alors, les gens qui sont choisis parmi les jurés, il faut le répéter, c'est des gens qui n'ont pas de casier judiciaire et qui votent. Il suffit de regarder en fait les pourcentages de vote Rassemblement National et pour Zemmour dans le Var pour comprendre aussi ce choix de délocalisation et la volonté donc en deuxième instance, c'est vraiment de faire en sorte que le procès il reste vraiment cloisonné, même s'il est public, puisqu'ils n'ont pas le droit de le mettre à huis clos, il n'y avait plus personne dans la salle, quasiment plus personne. Et ça dérangeait vraiment la PROC, l'huissier, etc., qu'il y ait des gens qui, parfois, y assistent. Mmh. Voilà. Et donc, les seules personnes qui ont vraiment assisté en long, bon, il y avait nous, mais il y avait aussi l'administration pénitentiaire, avec, évidemment, en premier, Stéphane Gély. Donc, Stéphane Gély, pour les personnes qui ne voient pas qui c'est le directeur de l'administration pénitentiaire pour toutes les tôles du sud-ouest, jusqu'à Nîmes inclus. Donc en particulier, c'est lui qui gère la direction régionale des prêches, donc les services d'escorte, et aussi de la prison de Béziers, puisque c'est à Béziers qu'était enfermé celui qui s'est évadé. Voilà. Okay. Donc lui, il assistait à tout le procès, hein, il a que ça à foutre.
il est payé voilà. Pour ça en même temps. Enfin,
il est payé pour libérer les gens d'isolement parce que c'est lui qui étudie les demandes de levée d'isolement, c'est lui qui envoie les iris, donc il peut aussi arrêter d'envoyer des fouilles et tout ça. Enfin, voilà.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que pendant toutes les heures d'audience, lui était payé, quoi.
oui, bien sûr, il était payé à juste montrer qu'il était là.
C'est ça.
Il n'était pas payé à empêcher l'isolement et le mitard des gens, quoi. Mm. Je vais revenir aussi rapidement sur la défense des accusés en deuxième instance, donc on appelle. Ils ont donc tenu le truc qui n'est pas d'homicide, ça on a déjà parlé, donc on ne va pas revenir trop en long dessus. Mais ils ont vraiment beaucoup, beaucoup réinsisté là-dessus et je pense qu'ils ont bien montré ça. Donc franchement, big up à eux.
Ouais, c'était vraiment le terme braqué, ouais. Quoi. Enfin, il l'utilisait précisément, il était en mode, bah,
c'est ça.
En fait, j'ai braqué, pas
peur,
plus.
En fait.
Voilà.
C'est ça. Après, c'est un truc que, évidemment, en première instance, il n'avait pas forcément beaucoup défendu parce que ça partait dans tous les sens, les attaques étaient tout le temps à charge, etc. Mais en deuxième instance, c'est vraiment une défense comme le font les braqueurs, justement. C'est-à-dire, en fait, quand ils braquent, je sais pas moi, une banque, etc., l'idée, c'est de faire peur, c'est pas de tuer les gens qui sont derrière les billets, quoi. Mmh. Devant les billets. Bref. Deuxième aspect important de la défense, c'était de reposer des questions aux enquêteurs, aux victimes et aux témoins sur les preuves de la présence de la troisième personne. C'est-à-dire que sur les trois accusés, en fait, il n'y a aucune preuve de la présence du troisième accusé lors des faits, et lui-même nie sa présence sur les lieux. Le problème qu'on a en fait là, dans cette histoire, c'est que comme on s'attaque à l'État quand on s'évade, en plus en usant d'armes, et que c'est une affaire interne assez importante aux yeux de l'administration pénitentiaire, il faut forcément qu'il y ait trois personnes condamnées. C'est pas possible de dire on n'a pas trouvé la troisième. Ça n'est pas entendable. Et du coup, notamment aux yeux des syndicats de matons, etc. Et du coup, la personne, en fait, elle est encore dans le box des accusés en appel, etc. Alors que effectivement le chef de la BRB qui s'occupait de l'affaire dit effectivement on n'a pas vraiment de preuves en fait que c'est lui. Il dit même plutôt il a l'impression que l'un c'est l'autre. Enfin voilà. Il est exprimé aussi de la part de celui qui était chargé des enquêtes téléphoniques que la personne qu'on accuse d'être la troisième, l'accusé, il a deux numéros de téléphone, mais c'est deux numéros de téléphone qui s'appellent entre eux, c'est un peu chelou, qui s'appellent entre eux en même temps, qui s'appellent entre eux depuis deux endroits différents, genre Nîmes et Tarascon, ça n'a aucun sens. Voilà. Et c'est uniquement sur la base de ces échos téléphoniques, pourtant, qu'on dit qu'il y a des preuves. Donc, il y a vraiment un problème. Et le dernier aspect un peu que je voulais mettre en avant sur la défense des accusés, c'est la volonté de créer une image, de changer l'image qu'on essaye de créer d'eux, disons. Parce qu'en première instance, ils ont vraiment été décrits comme des monstres, surtout par tout ce qui est enquête de personnalité, enquête psy, etc. Et on dit souvent les enquêtes les enquêtes psy, c'est comme les enquêtes de balistique, elles inventent des trajectoires. Et ben là, c'est clairement ça. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, c'est des experts psy, soi-disant experts, en fait, sont payés à aller 10 minutes en parloir et asséner des vérités hyper rapidement sur les gens. Et soi-disant, c'est des trucs hyper scientifiques qu'on peut pas remettre en cause. Pour donner un exemple, celui qui plaide l'acquittement, le troisième, là, dont je viens de parler, il est décrit comme mythomane après une visite en parloir d'un expert psychiatre pendant 10 minutes. Évidemment, être décrit comme un mythomane par un expert dont on considère que la parole vaut quelque chose, c'est un gros problème, en fait, pendant un procès où tu plaides d'acquittement, quoi.
Oui, c'était vraiment lunaire, les expertises psy. Moi, j'avais pris quelques notes, du coup, pour le premier accusé. Donc, il a vu l'expert psy 20 minutes et il lâchait des trucs comme... il est d'une intelligence dans la moyenne basse, il n'a pas d'émotions, elles sont refoulées ou ignorées, pas d'empathie par rapport aux autres, enfin vraiment ça parle de...
Pas d'émotions, voilà, on essaie de déshumaniser les gens, c'est vraiment le but d'un procès d'assises, c'est par toutes ces experts qui passent les uns après les autres, bien avant que les accusés puissent parler, et encore sous la forme d'un interrogatoire du juge, on est d'accord. En fait, tous ces enquêteurs, c'est des gens qui vont complètement faire rentrer dans l'idée, dans la tête des jurés, que c'est des personnes complètement infréquentables et qu'il ne faut pas les écouter, quoi.
Sur le truc de l'intelligence aussi, il y a le truc de soit t'es bête et en fait tu dis n'importe quoi et donc on peut pas te croire, soit au contraire t'es trop intelligent, donc t'es dangereux parce que peut-être tu caches quelque chose ou peut-être que tu prémédites des choses. Et donc il y a toujours...
Tout est à charge, quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est ce qu'expliquait Francis dans une des lettres dont vous avez lu, que vous avez lu à l'antenne. Francis, on le reproche d'être trop observateur, alors qu'il fait rien. C'est-à-dire que juste, il observe comment on gère son dossier, donc un prisonnier qui est en quartier d'isolement depuis des décennies. Et en fait, rien que le fait d'être observateur, c'est quelque chose qui va t'être reproché.
Voilà. Puis aussi, il parlait beaucoup justement du comportement des accusés en détention. Ça a été beaucoup évoqué pendant l'audience. Et
par exemple, il y a le cas des Baumettes. On peut revenir là-dessus. C'est que les trois accusés, ils sont à trois prisons différentes dans le sud-est de la France. Il y en a un qui est au Baumettes. Et en gros, il a une vingtaine de CRI, de compte rendu d'incidents pris en tôle depuis qu'il a été repris en 2019. Donc, en gros, depuis 4 ans, il a... même moins de 4 ans, 3 ans et demi, il a une vingtaine de CRI. L'essentiel de ces CRI, je peux citer ce qu'on lui reproche, donc c'est des refus d'obtempérer, des insultes contre le personnel pénitentiaire, des tentatives de participation à un mouvement collectif, des refus de réintégrer, des refus de promenade, de remontée de promenade, et des altercations avec les surveillants. En fait, ce qu'il explique, lui, après, en filigrane, c'est que, en fait, les matons, ils vont faire payer très cher à ces trois prisonniers ce qu'ils ont fait. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils se font tabasser régulièrement, insulter, provoquer, etc. Et qu'en fait, les CRI, ils viennent pas de nulle part, ils viennent du fait que les matons, et les syndicats de matons en particulier aussi, veulent faire payer très cher à ces trois prisonniers d'avoir osé s'évader et osé braquer des matons, quoi.
Ouais, donc il y a ce côté-là, donc les coups de pression de la part des matons, mais j'ai l'impression que ça révélait aussi des grandes différences selon les tôles. et que là, l'accusé, il disait que vraiment les baumettes c'était horrible et que à Draguignan, par exemple, ça se passait mieux et que il disait ouais, on me traite comme un animal, ça me pousse à réagir comme un animal. Il a parlé notamment du fait qu'on lui avait pas annoncé un transfert et que du coup il avait perdu ses parloirs, sa cantine. Et même pas ses activités, parce qu'il disait qu'au Baumettes il n'y avait pas d'activité, que c'était juste cellule, promenade, et que même les parloirs en fait on lui enlevait. Et donc il a vraiment parlé des conditions hyper difficiles, quoi, en particulier au Baumettes.
Un autre truc très difficile qui lui est arrivé, c'est que quand même sa mère s'est déplacée en parloir pour le voir. Donc on apprend dans le procès que sa mère elle vient à peine d'arriver en France. Et on lui dit de repartir et on prétend à l'accusé qu'en fait elle n'est pas venue en parloir. Donc le parloir fantôme, en prétendant qu'elle n'est pas venue le voir, et alors qu'il n'a pas eu de parloir pendant un an. La première année de sa détention, il n'a eu aucun parloir, ni aucun mandat. Et en fait, on vient lui dire ça, on vient dire ça à sa mère de repartir. Enfin voilà, c'est vraiment...
Ouais, et en plus, il s'est hyper inquiété parce que du coup, il s'est demandé pourquoi elle n'est pas venue, quoi. Enfin, il faut aussi penser à ça quand on est isolé à l'intérieur, qu'on n'a pas moyen d'avoir des nouvelles facilement, que ça peut être vraiment stressant.
Et on peut revenir sur ce truc-là aussi, des conditions de détention, c'est qu'en fait, les matons, partout où ils sont, ils vont attaquer, quelle que soit la tôle, les prisonniers là, qui sont accusés, vont se manger une vengeance de la part des matons. Et on peut pas se mentir là-dessus, c'est-à-dire que par exemple, un des accusés, il a été transféré à Toulon, parce que comme il est DPS, il a besoin d'un mirador. Donc pendant le procès, il n'était pas à Draguignan, à la maison d'arrêt de Draguignan, à côté du tribunal, il était à Toulon.
DPS, ouais. Du coup, détenu particulièrement surveillé, pour les personnes qui...
Signalé, ouais.
Signalé.
Et du coup, à Toulon, on devait l'escorter tous les matins, donc assez tôt, jusqu'au tribunal de Draguignan, c'est à peu près 2 heures de route, un peu moins parce que bon, ils ont le droit de conduire n'importe comment, mais il y avait une grève de matons. Donc on peut réexpliquer ça rapidement. Une grève de matons pendant le procès, c'était en fait une grève de matons, c'est les matons, ils empêchent les proches de rentrer voir leurs proches en tôle. Donc ils interdisent les parloirs et ils empêchent aussi toutes les activités, ils prennent plus le linge, etc. Quoi. En fait, il ne se passe plus rien dans la tôle, il n'y a plus aucun mouvement dans la tôle. Mais donc quand les matons ils font grève, ils n'empêchent pas du tout la justice et les prisons de tourner, ils empêchent en fait la vie des prisonniers d'exister. Quoi. Donc en fait, une grève de matons, c'est pas du tout comme une grève de gens normaux.
Oui, ça fait pas chier l'administration, ça fait chier les prisonniers, quoi.
Oui, mais en fait, s'ils voulaient vraiment faire chier le ministère de la Justice, ils pourraient très bien tous se placer devant un tribunal et dire non, on veut pas faire notre travail. Je crois, quoi. Là, ce serait une grève. Mais en fait, une grève où en fait tu pourris la vie des prisonniers, c'est pas faire grève, c'est juste insister sur ton rôle le maton. C'est faire ton travail, mais encore pire. Donc voilà, bon bref, il y avait une grève de matons à Toulon ce jour-là, et du coup c'est les Iris qui ont été chargés le vendredi du procès, un des jours du procès, qui ont été chargés de venir chercher le prisonnier sans qu'il ait été réveillé avant par la ronde qui réveille les prisonniers. Quoi. Mmh. Et du coup, il n'a pas eu le temps de se changer, il n'a pas eu le temps de prendre une clope, de manger un petit creux ou je sais pas quoi, mais pire, il arrivait en pyjama au procès de sa vie, quoi. Il dit je joue ma vie aux Eris, et les Eris lui répondent non mais on n'a rien à foutre, on s'en fout. Et le pire dans tout ça, parce que je dis c'est pyjama, mais en fait le pire c'est qu'il se fait tabasser. En fait, il arrive le jour du procès, il a plein d'échymoses sur le visage, il a des coups partout, des bleus partout, et voilà. Et le juge qui dit oui, bon, on sait très bien, dans ces cas-là, il y a toujours deux versions. Hein. Je l'ajoute en PV, voilà, il ajoute le PV. Au compte-rendu du procès, mais en fait, ça change strictement rien. Et en fait, là, on voit très bien la pression qu'essayent de mettre les matons pendant le procès, aussi contre les accusés. Quoi.
Et aussi contre le public. Enfin, là, c'est plutôt du côté des flics qui surveillent la salle. Je ne sais pas si on va en parler. Juste, il est bientôt 20h. Est-ce que... Je pense qu'on peut dépasser un peu. Est-ce que ça te va?
Oui, moi, ça me va.
Ok, bah, prévenir... tout le monde, du coup, qu'on va dépasser un peu l'émission aujourd'hui. Et il y aura bien un petit point agenda à la fin et une musique. Donc, restez avec nous.
Très bien. tu voulais dire quoi sur les flics ?
Sur les flics qui mettaient aussi la pression aux personnes qui sont venues assister au procès. Enfin, j'ai l'impression que l'ambiance n'était pas détendue comme un procès classique où en fait c'est public et n'importe qui peut venir voir. J'ai l'impression que on cherchait à savoir qui venait assister, quoi. Qu'il y avait un peu de la surveillance.
En fait, à part les avocats des accusés. Tous les gens qui travaillent pour la justice, qui étaient présents à ce procès, étaient très dérangés de nous voir.
Hostile.
Voilà. Très hostile, ils posaient beaucoup de questions, on avait des mini-interrogatoires dans les couloirs, enfin, très, très agréable. Mais après, bon, c'est rien par rapport à, par exemple, le fait de délocaliser ça à Draguignan, ça fait que les proches ne sont pas venus, par exemple. C'était trop loin, quoi. Trop loin pour eux, trop cher.
Et oui.
Bref, pour revenir un dernier coup sur les problèmes qu'il y a eu, ça c'est vraiment un truc qui est apparu en deuxième instance, les problèmes qui sont apparus entre l'AP et les matons, et je pense que c'est pas anodin parce que ça explique beaucoup de choses sur le fonctionnement de la prison aussi, en général. Donc en gros, en première instance, tout était lisse, l'administration pénitentiaire qui s'est portée partie civile et les parties civiles, donc les matons, ont eu un peu la même version devant la barre, etc. Il n'y avait aucune dissension, et bon, ouais, comme j'ai déjà expliqué, l'administration pénitentiaire et les syndicats de matons étaient présents en première instance dans le public aussi. En deuxième instance, ce qui s'est passé, c'est que les matons qui étaient partis civils ont beaucoup, 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 beaucoup insisté sur le fait que l'administration pénitentiaire ne les a pas du tout soutenus, parce qu'ils réclamaient d'être transférés dans d'autres services, d'autres tôles, ou qui demandaient des indemnisations, ce genre de choses. Alors que l'administration pénitentiaire, elle considère que ces matons-là, en fait, ils ont fauté, parce que quand il y a une évasion, c'est une faute professionnelle. Voilà. Aux yeux de l'administration pénitentiaire, le pire qui puisse arriver, c'est un prisonnier évadé. C'est pas un prisonnier mort, hein. C'est vraiment un prisonnier évadé. Ça, c'est un truc qui revient régulièrement à certains procès pour évasion. On entend vraiment texto les gens dire qu'ils préfèrent un prisonnier mort qu'un prisonnier qui s'évade. On peut rappeler le fait que les premiers à avoir eu des armes historiquement dans la prison, ce sont les miradors. Les miradors, ils servent à quoi ? Juste à empêcher les évasions. Donc les miradors sont armés, et s'il y a un cas d'évasion, ils ont le droit de tirer, hein. Donc il y a déjà eu des morts. Il y a déjà, par exemple, il y a 22 ans, là, c'était arrivé, hein. Ça arrivait régulièrement à plein de prisons. Et là, aujourd'hui, les matons à qui on élargit justement le port d'armes, c'est pas par hasard, c'est ceux qui sont responsables des extractions. Donc les PREJ, les pôles régionaux d'extraction judiciaire, dont on parle aujourd'hui, là, justement, les matons en question, ils sont armés depuis 2016. Et les ELAC, donc les équipes locales d'administration et de contrôle, ou l'ESP, hein, c'est l'équivalent, ces gens-là aussi ont en fait des armes depuis 2-3 ans, parce que les ELSP, depuis pas longtemps, sont responsables des extractions judiciaires de courte distance, et des extractions médicales aussi. Bref,
okay.
Tout ça pour dire que les extractions sont aussi un moyen d'insérer les armes dans le système pénitentiaire. Et on voit très bien que c'est un enjeu important aux yeux des syndicats de matons, fascisants en ce moment-là, qui essayent d'insister là-dessus, sur en fait essayer d'armer encore plus les matons. Et ça, c'est très grave, parce qu'en fait, ce qui risque d'arriver, c'est que l'arrivée des armes à l'intérieur de la détention, c'est déjà un peu le cas avec des armes soi-disant pas létales, mais qui le sont en fait à 9 mètres de distance à bout portant, du type LBD. Les LBD sont autorisés dans les coursives, donc imaginez ce que ça peut faire, un tir de LBD dans 9 mètres carrés. Bon, voilà. On sait ce que ça a fait l'année dernière, il y a 6 mois pendant les émeutes, suite à la mort de Naël, il y a une personne à Marseille qui est morte de ça, parce qu'elle s'est fait tirer dessus par le RAID. C'est ça, hein, c'était le RAID qui avait tiré dessus au LBD.
Je suis pas sûre l'info. Je peux chercher si tu veux.
Bon, en tout cas, c'était une arme non létale, donc c'était des beanbags ou un LBD. Et la personne qui était en train de passer en scooter s'est fait tirer dessus par la police. Voilà. Et donc il y a eu un autre mort dans ces émeutes-là. Voilà.
Et pour revenir sur le manque de soutien de la paix sur les matons.
Ah oui, pardon.
C'était assez c'était assez ridicule la plaidoirie de l'avocate des parties civiles, j'ai trouvé où à la fois elle essayait de les encenser comme des héros et en même temps elle disait que c'était vraiment les pauvres petits qu'ils étaient moqués par leurs collègues et que maintenant ça devenait impossible de travailler et donc c'était pas cohérent juste ça, déjà que ça faisait pas rêver le métier de maton, voir comment ça fonctionne en interne, c'est vraiment aberrant quoi.
C'est marrant, la matonne elle-même, elle dit personne ne fait maton par conviction. Personne ne devient maton par conviction. Enfin pour le métier quoi.
Ouais,
l'expression, je l'ai pas sous les yeux. Mais...
Ouais. Alors que son avocate, elle dit le contraire après dans la plaidoirie, en mode c'était leur vocation, ils peuvent plus l'exercer.
Voilà, par vocation.
Du coup, ils ont un dommage. Ils ont un dommage irréparable, enfin bon bref.
Non, parce que dit la matonne, c'est que certains de ses collègues, là je cite, sont des chiens. Je ne fais que citer une matonne. Notamment, elle dit que certains de ses collègues, parce que il y a la paix, mais il y a aussi les autres matons qui lui en veuillent en fait d'avoir relâché un détenu. Et du coup, il y a certains de ses collègues qui lui disent d'aller se pendre, des trucs comme ça. Et donc elle conclut en disant que en fait elle aurait moins de problèmes avec l'administration pénitentiaire. Donc là je cite, si je frappais les détenus ou si je faisais du trafic. Voilà. Au moins c'est clair. Même les matons le disent, ils le disent publiquement là-bas. Nous on le sait très bien, mais voilà. Il n'y a pas de doute là-dessus, quoi.
Bah écoute, on l'invite à changer de métier, hein, du coup. Ça a l'air vraiment.
On l'invite à démissionner. Et un dernier truc sur ces problèmes internes entre la paix et les parties civiles, c'est que la paix a voulu prétendre que c'est les matons qui ont mal agi, et du coup ils ont créé un faux dans les pièces qui sont présentes au jugement. En fait, l'ordre de mission, donc pour expliquer un peu, les prêges, quand ils reçoivent les ordres de mission d'extraction, ils reçoivent des infos sur le prisonnier, la date, l'heure, où est-ce qu'il faut l'amener, etc. Et un niveau d'escorte, il y a 4 niveaux d'escorte en France. Il y a escorte 1, c'est escorte vraiment tranquillou pépouze, ça n'existe pas trop. Il y a escorte 2, c'est le truc normal qui est mis de base pour tous les prisonniers. Et après, escorte 3 ou 4, là, il va y avoir une vigilance accrue, il va y avoir des armes éventuellement, etc. Par exemple, les fusils d'assaut dont parlait Francis dans une lettre, G436, c'est escorte 3 et 4. Voilà. Bon, et ben lui, il était escorte 2, c'est-à-dire comme tous les prisonniers, la plupart des prisonniers. Et du coup, les presses ne se sont pas méfiées particulièrement d'une évasion ou je sais pas quoi. Et en fait, la paix, elle a rajouté sur cet ordre mission, après l'évasion, au crayon à papier, à la main, un truc manuscrit, ils ont rajouté dessus, faites attention, cette personne a déjà essayé de s'évader par le passé. Et la matonne, en première instance, on n'a jamais parlé de ça, mais en deuxième instance, on appelle, elle a dit, non, ça n'était pas présent sur l'ordre de mission. C'est une invention de l'administration pénitentiaire. C'est l'administration pénitentiaire qui a créé un faux. Et donc, en gros, la matonne a été prête à gober ça en première instance, on n'en a pas parlé. Sauf que là, en fait, elle était tellement deg contre la paix et tout ça qu'elle a décidé d'arrêter de mentir.
Parce qu'ils n'assumaient pas d'avoir rien vu venir, quoi. Du coup, ils voulaient...
C'est ça. En fait, les deux, ils essayent de se couvrir. C'est le réflexe qu'ont les matons et la paix. Je redis, c'est parce que pour l'administration pénitentiaire, le pire qui puisse arriver, c'est une évasion. C'est le pire qui puisse arriver. Ou une révolte à l'intérieur, mais une révolte avec évasion, quoi. Et du coup, il est inentendable que les matons aient fait leur boulot s'il y a une évasion, et inversement, l'administration pénitentiaire est considérée comme coupable s'il y a une évasion, quoi. Et du coup, chacun essaye de se défendre, et voilà. Et donc, je trouve que ça explique pas mal de choses sur le fonctionnement de la prison, notamment que, en fait, le rôle essentiel de la prison, c'est pas du tout, je sais pas moi, de réinsérer ou je sais pas quoi, c'est vraiment que les prisonniers soient en prison, et qu'ils soient enfermés entre quatre murs. Et voilà, en fait, c'est le but, c'est d'exclure les gens de la société. Et on le voit très bien, en fait, comment réagit une administration lors d'une évasion. Ça démontre très bien, en fait, quel est son rôle, quoi. Le pire qui puisse arriver, quitte à créer des faux, etc., c'est une évasion, quoi.
Et de tuer les gens sous couvert de légitime défense ou je ne sais quoi.
Voilà, légitime défense, alors que les gens, ils sont juste en train de cavaler, on leur tire dans le dos. Enfin, bref.
Et est-ce qu'on parlerait pas du verdict, du coup, de cet appel? Qu'est-ce que ça a donné?
Donc, celui qui était prisonnier, qui s'est évadé du fourgon et qui est considéré comme le cerveau, parce qu'ils ont toujours besoin d'un meneur et tout ça, il avait pris 25 ans en première instance, il a pris 13 ans. Donc, en fait, il a pris 10 ans pour l'évasion avec usage d'armes, ce qui est le maximum pour ce délit. Il n'a pas été reconnu comme... En fait, la tentative de meurtre sur Maton, elle est tombée. Elle n'a pas été retenue. Donc, c'est évasion avec usage d'armes le maximum qu'il puisse prendre en termes de qualification et en termes de peine, c'est 10 ans. Okay. Du coup, il a pris 10 ans pour ça. Et en fait, la proc, elle a sorti de son chapeau au dernier moment, à toute fin du procès, un truc de récidive légale perpétuelle. Donc, en gros, comme le prisonnier, il a été condamné dans le passé pour du trafic de stupes, on considère qu'il est en récidive, alors que les faits ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Une évasion et trafic de stupes, on est d'accord, ça n'a rien à voir. Mais en fait, c'est un truc qui est passé dans les lois récemment, là, sous Macron, je ne sais plus c'est laquelle, je ne sais plus c'est loi séparatisme ou un truc comme ça. Ça ne me revient plus. Mais en gros, la récidive légale perpétuelle, ça permet de dire... que pour certains faits qui sont condamnables, qui sont passibles de la même peine, c'est considéré comme de la récidive, même si ce n'est pas les mêmes faits. Ce qui est en fait une ouverture de ouf dans le droit français de prétendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est considéré en récidive, même avec des faits qui sont différents. Bref. Et du coup, il a pris 13 ans, il a pris 10 ans, plus 3 ans pour la récidive.
Ok, en gros, il en courait 20 ans au lieu de 10 et il a pris 13, quoi.
C'est ça. En gros, il encourait 20 ans, effectivement. Okay. Il encourait 10 plus 10, et donc il a pris 13. Mais avec un truc sorti du chapeau, et qui est, enfin, je veux dire, en termes de logique et de bon sens, si tant est que ça puisse avoir un sens que je raconte en termes de droit, mais la logique du droit ne veut pas... Enfin, ça n'est pas de la récidive, trafic de stup et évasion. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Bref, l'autre qui avait le fusil d'assaut, pareil, on lui a ressorti ce même truc-là, donc il a pris 12 ans, 10 plus 2. Et le troisième, dont il n'y a pas de preuve de sa présence sur les lieux lors de l'évasion, et qu'il calme son innocence, il a pris 8 ans.
Ok.
Voilà, ce qui montre bien que tout est absurde et qu'en fait, comme on baisse pour les autres, on baisse aussi pour lui, mais enfin, voilà. Il n'y a vraiment strictement aucun sens à ces peines, à part que le but a été de, même quand ils prennent évasion avec armes, l'idée c'est de leur faire prendre cher, et donc la peine maximale, plus des trucs qu'on va gratter sortis de nulle part, quoi. Donc ils prennent 13, 12 et 8 ans, voilà, pour conclure, ce qui est quand même énorme. On peut un peu se réjouir du fait que ça baisse... à peu près de moitié globalement pour chaque peine, ou plutôt ça prend 10 ans de moins, quoi, et ça reste en fait des peines énormes, d'autant qu'ils ont pris des peines énormes aussi pour les vols de voitures qu'ils ont fait pendant leur évasion, puisqu'en fait quand tu es en cavale, bah, c'est un peu galère de se faire de la thune, etc. Donc bah, ils ont fait ce qu'ils savaient faire depuis d'avant, quoi. Et donc bah, voilà, ils se retrouvent avec quand même des peines de... d'une trentaine d'années ou vingtaine d'années, selon les cas, voire quinzaine, c'est des peines catastrophiques. Hein. On parle de trucs, il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années, le maximum que prenaient les gens pour des choses extrêmement graves, hein, les trucs qui prennent perpétuité aujourd'hui, ils prenaient 15 ans, les gens. Donc on est vraiment dans une logique d'allongement des peines. Et, ouais. Enfin, si on reprend les autres cas d'évasion avec usage d'armes, on est dans les maximums, vraiment.
Et en plus, c'est assez aberrant comme... Enfin, du coup, c'est des grosses peines et pourtant, il n'y avait quasiment pas d'enquête, quoi. Il n'y a quasiment pas eu d'enquête. Je repense du coup à la personne qui plaidait la relaxe, où il n'y avait pas de preuves. On voit Donc, dans les réquisitions de la proc, les seules preuves qui sont utilisées... et qui est d'ailleurs dans une grande partie des procès auxquels j'ai pu assister, c'est les bornages des téléphones. Et en fait, à partir de ce peu d'infos-là, ils tirent des théories qui deviennent la réalité. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment la preuve la plus utilisée dans cette affaire et qui est beaucoup aussi utilisée.
Comme on disait, c'est même pas une preuve, parce qu'en fait, on lui reproche d'avoir deux numéros de téléphone. Les deux téléphones bornent à des endroits différents. Donc, enfin voilà, faut se mettre d'accord. Par exemple, on lui reproche de voler une voiture pour faire l'évasion. avec un téléphone. Le téléphone le prouve, il est dans votre quartier où il était volé la voiture. Et en même temps, ben, l'autre téléphone, il est à Tarascon en même temps. Enfin, faut m'expliquer, mais la personne ne peut pas être partout, en fait.
Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est intéressant de se dire ça aussi dans une perspective de vouloir sécuriser une cavale, par exemple, que le téléphone, c'est quelque chose qui va être beaucoup regardé et systématiquement utilisé en procès, quoi, dans le procès.
S'ils ne savent pas où t'es, ils vont mettre sur écoute tous tes proches. C'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils ont mis sur écoute tous les proches et ils ont mis des balises sur les voitures aussi de leurs proches. Voilà, grosso modo, c'est les deux trucs centraux qu'ils ont fait comme enquête. Et voilà, en fait, ils épluchent les numéros de téléphone de la personne avant qu'elle soit prise. Donc, ils prennent les historiques précédents. Et en fait, ils mettent sur écoute ces numéros-là. Et puis, ben, ils regardent où bornent ces numéros de téléphone-là et ils mettent des balises sur les voitures des proches.
Oui, ils regardent les horaires aussi, les horaires de bornage.
Ils regardent les horaires, etc.
Ouais.
Mais du coup, ouais, ben, si on peut donner un conseil à toutes les personnes qui veulent partir en cavale, c'est vraiment de faire hyper gaffe avec le téléphone, voire de ne pas en utiliser.
Téléphone et compte bancaire, évidemment. C'est les deux trucs qui laissent le plus de traces. Voilà.
Ça, de toute façon, évidemment, le compte bancaire, on le voit très bien. Même quand on n'a rien à se reprocher, il faut essayer de l'utiliser au minimum, quoi.
C'est ça. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce compte-rendu de procès. C'était hyper complet, hyper intéressant et tout. Je sais pas si tu as envie de rajouter un truc avant de raccrocher.
Je vais envoyer un maximum de force aux prisonniers et prisonnières qui nous écoutent, en particulier à toutes celles et tous ceux qui vont partir en cavale un jour. Du coup, moi, c'est aussi un air big up à toutes celles et tous ceux qui veulent partir en cavale, donc ce qui est le cas de tous les prisonniers. Et puis, un air big up en particulier aux trois qui ont pris ces peines-là. Là. Voilà.
Ouais, c'est clair. Big up, big up à tout le monde, du coup.
Ouais, big up à tous les prisonniers, à leurs proches. Voilà. Et à bientôt.
Ouais, salut, à bientôt.
Salut, ciao, ciao.
Ciao. Et du coup, je vais conclure l'émission là, assez rapidement avec un petit point agenda. Et après, on passera une zic demandée par Joël, le camarade de l'envolée. Donc, rappeler que demain, donc le 4 mars, il y a un super événement au Gyptis. Donc, Gyptis, c'est au 136 rue Loubon, dans le 3e arrondissement à Marseille. Il y a en effet une présentation de l'Envolée, justement, qui est le journal et le collectif duquel fait partie Joël, qui nous a appelé ce soir, et suivi d'un film, d'une projection d'un film qui a été réalisé en 2016 au Mexique et qui parle notamment de l'anticarcéral et du rôle des femmes. Donc ça a été fait par des femmes, donc soit soutien de prisonniers et prisonnières, soit elles-mêmes ex-prisonnières. Et la projection est gratuite, donc demain, au Gyptis, à 19h, pardon, je ne l'ai pas dit, à 19h. Et je peux déjà annoncer, même s'il n'y a pas encore le programme, il y aura fin mars un week-end anticarcéral à Marseille, et donc qui durera du vendredi au dimanche. Donc réservez votre week-end dans vos agendas et on vous passera le programme. Il y aura sûrement des présentations de collectifs, des présentations de livres, un spectacle peut-être, et voilà, bon, on en reparlera. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse avec la musique Les Évadés 113 de DJ Remix, Mehdi Remix. À la semaine prochaine.
Appel à toutes les unités. On recherche 4 évadés d'un quartier chaud de Vitry-sur-Seine. Description, 2 négros de beurre. Je répète, 2 négros de beurre. Ils sont prêts à tout. Pour eux, y'a ni barrière, ni barreaux, ni frontières. Donc on quadrille le terrain et s'y font lâcher les chiens. Hein. Attention, sont armés dangereux.
Pour des jours meilleurs, je fais mon premier pas à l'extérieur. Tension supérieure, reste à la hauteur avec la mort comme peur. Tragique destin, faut comprendre.
Même si les keufs m'ont cramé, sache que jamais j'irai me rendre.
Nos frères d'Afrique, on t'organise en aide fuite. Mais y'a une couille à poursuivre derrière moi, ça grippe un tas de flics. Faut que j'assume, y'a pas à chier, y'a pas à discuter. Le jour où on m'a bouclé, c'est comme si on m'avait amputé, enculé. Si j'avais pu, je vous aurais tous brûlé. Et je ne pense qu'à les semer, mon heure n'a pas encore sonné. Différentes péripéties, je suis comme un gibier dans la nature. J'cavale et rase les murs, je cherche un endroit sûr. Peu à peu, j'esquive ces ordures. J'ai plus rien que la censure, putain d'envergure. C'est bien ma rime qu'à la pourriture. J'arrive au QG, malheureusement de partout je sais. J'ai brisé les chaînes pour ma pâte et Vitry sur scène.
Putain, tricard, traqué, tête mise à prix, tête fichée, recherché en vain dans tout le pays. Des évadés, présumés dangereux, tu coupes la route, c'est bouillant, on ouvre le feu. Putain, tricard, traqué, tête mise à prix, tête fichée, recherché en vain dans tout le pays. Des évadés, présumés dangereux, tu coupes la route, c'est bouillant, on ouvre le feu.
Malheureusement c'est reparti en couille, pas le temps de se lamenter. Va falloir faire preuve de débrouille, pour surtout pas se faire attraper. On fuit chacun de notre côté, un seul but, une cité. Pénétrer dans une cage d'escalier pour observer leurs gestes et faits. Agir comme des évadés, surveillés de près par les condés. Cette fois décider les poings fermés, agissant les yeux fermés. À m'attraquer puis me noter un gamin, lui faire la hagla au commissariat jusqu'au lendemain. De toute façon on n'y peut rien, il faut comprendre, il faut apprendre qu'il n'existe pas de choix en commun pour faire face à son propre destin. Je continue ma